Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 98e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection que je vous prépare aux petits oignons avec caféine. Salut Caf.
Ça va mon petit fasquier là?
Écoute, ça va, on approche de la centième là.
Ouais, pour la rentrée, on va, parce que c'est parfait, tu vois, on pourrait penser qu'on l'a fait exprès, parce que nous sommes des génies, oui, bien sûr, on est surtout, en fait, on calcule pas du tout ces trucs-là, faut le dire. Mais effectivement, la dernière de la saison, ça sera la 99e la semaine prochaine. Et du coup, pour la rentrée, on pourra préparer un truc extraordinaire pour la centième.
Sais pas quoi encore, mais on va y réfléchir, on se met la pression là.
On pourra peut-être préparer juste la centième, ça sera déjà pas mal,
effectivement. Et puis, on reste dans les anniversaires, parce que tu voulais commencer en parlant c'est les 4 ans maintenant de la nouvelle version de Geekzone, c'est bientôt.
Mais oui, la refonte de Geekzone avec le nouveau forum, le nouveau look, le dépoussiérage, c'était déjà en 2015, les amis.
C'était
en septembre 2015 même. Et du coup, septembre 2015 pour la centième et pour les 4 ans de Geekzone, on aimerait bien dépoussiérer le site aussi, podcast, on va voir, j'ai 3 idées, machin, et bon, faut qu'on voit. Mais déjà le site, comme vous le savez, il est dans son jus, là, ça y est, 4 ans pour un site web, c'est la sénilité qui arrive.
C'est ça.
Du coup, on a nos news qui sont toutes étriquées entre deux colonnes, j'aime bien le look de nos dossiers qui sont quand même relativement agréables à lire, etc. Mais j'aimerais passer sur un look beaucoup plus moderne, encore plus adapté à nos bons vieux téléphones, tablettes, etc. Même si ça marche déjà plutôt pas mal, hein, mais ça serait encore mieux. Le forum, il n'y a pas de problème, on va continuer de rien faire parce qu'on n'a pas les moyens et qu'on est très content de la solution qu'on utilise. Pour ceux qui sont un petit peu allés voir dans les options, je rajoute quelques thèmes de temps en temps qui sont avec un support, on va dire, aléatoire, qui fait d'ailleurs criser Mr. P qui s'occupe de la tech parce qu'il n'y a pas le bandeau, en fait, sur toutes les skins que je rajoute en loose day. Vous n'avez pas l'intégration avec le menu en haut de Geekzone, mais c'est fait exprès, c'est parce que ça nous saoule, en fait, et que ça casse tout quand on le fait. Et moi, ça me permet d'avoir des skins qui s'update automatiquement, ce qui n'est pas possible quand on rajoute notre couche d'intégration. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai mis de côté plein d'idées de sites, de skins, etc., qui moi me servent d'inspiration pour après aller faire chier Titan, Mr. P, etc., pour adapter tout ça pour le site. Mais j'aimerais bien savoir, en fait, si vous avez des trucs qui vous ont tapé dans l'œil dernièrement. Donc on va faire un thread dédié sur le forum de Geekzone. Si vous avez des idées, alors ça peut. J'invite les vieux de la vieille, mais aussi ceux qui écoutent le podcast sans aller vraiment sur le site, s'ils ont envie justement de s'en mêler, c'est le moment, les gars, de nous balancer des références, des liens. Je vous demande pas une dissertation, mais voilà, ça j'aime bien parce que ça peut être un point spécifique du site, pas forcément le site dans son intégrité, mais de vous dire tiens, ce truc-là vraiment, je trouve que c'est cool et je pense que sur Geekzone ça serait bien, etc. Évidemment, si c'est extrêmement compliqué à faire. Intégrer. Vous connaissez nos moyens de World Company, donc forcément on fera au mieux et on bricolera des trucs quand on peut. Mais j'aimerais bien avoir un feedback là-dessus sur les choses qui vous tapent dans l'œil en 2019 et à horizon 2020 en vous disant tiens, il y a ce truc-là que j'aime bien. Et comme j'ai demandé aussi à Fasque, etc., de faire des trucs, de mettre ça de côté, on fera un petit état des lieux, je pense, au mois d'août pour voir ce qu'on fait à l'horizon 2020. Oui, ça sera pas prêt pour l'anniversaire, hein. Je ne me fais pas d'illusions, mais en tout cas, si on peut commencer à dépoussiérer tout ça et avoir un truc sympa en 2020, ça serait pas mal, parce que c'est pas mal. J'aime bien 2020, tu vois, c'est un chiffre rond.
Ouais, tout à fait.
Je me dis, j'attends un peu pour renouveler mes bécanes, tout ça, moi, je me rappellerai quand je l'ai fait, tu vois, 2020, c'est un truc simple. Mais bon, pour le site, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, j'attends vos infos. Le thread sera linké directement dans le billet qui accompagne le podcast. Je vais le créer tout à l'heure quand on aura fini d'enregistrer. Et il y aura certainement déjà des informations, puisque il y a des gens qui sont sur le forum, hein, incroyablement, donc je pense qu'on aura des réponses dès ce soir. Enfin, donc dès ce soir, dès hier soir pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez un petit peu avant de poster d'ailleurs s'il n'y a pas des gens qui proposent déjà, etc. Mais n'hésitez pas à rebondir sur ce qui est proposé. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir une conversation autour de ça et de se dire voilà, tiens, ce truc-là, ça sert à rien. Il y a plein de trucs qui servent à rien, on le sait, sur les colonnes vont dégager. Il y a plein de trucs qui sont déjà actés dans notre tête, mais on veut prendre vos avis. avis et prendre la température sur peut-être des trucs qu'on a ratés, etc., etc. Voilà.
Allez, on va attaquer avec le cœur de l'émission maintenant, puisqu'on va passer au gaming. Et pour une fois, c'est moi qui vais parler gaming. Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, surtout que tu vas parler d'un jeu auquel tu joues pas. Bravo, ouais,
exactement. Oh, bah, c'est genre, c'est, tu le fais jamais, toi.
Jamais, jamais, mais pas
on
du
va,
tout.
On va reparler de PUBG, de PUBG, dont on n'a pas parlé depuis très très longtemps. Il y a une mini polémique, même si j'aime pas le terme, pour le moment, autour d'une espèce de reboot de l'arc narratif, l'angle narratif même du jeu. Parce que, on sait pas si c'est parce que le Battle Royale essaye de rester un peu pertinent en ce moment. Je connais pas les chiffres en fait d'ailleurs autour de PUBG pour le moment. Est-ce que c'est toujours un des jeux les plus joués ou bien est-ce qu'ils ont perdu
Non, c'est plus le truc de 2017 hein, évidemment, c'est plus le monstre là, c'est Fortnite leur a rôlé dessus, mais ça reste un des trucs les plus joués au monde et surtout ça reste une usine à cash de ouf et surtout la version mobile continue de cartonner dans des proportions qui sont mind-blowing comme on dit dans le business. Et faut pas du tout sous-estimer la puissance du jeu. Moi on peut d'ailleurs citer Titan encore lui qui ponce le jeu tous les soirs assidûment avec sa communauté de potes du Discord dédié au jeu, et c'est vraiment un titre qui s'est installé sur la durée et qui continue d'évoluer. Donc non, ça se passe plutôt bien, on va dire. Voilà.
Ouais, donc ils annoncent la saison 4 pour le 24 juillet, et à l'occasion de cette saison 4, hein, comme je le disais, un espèce de retcon de l'angle narratif du jeu, puisque maintenant en fait ils ont décidé de rajouter un pan histoire autour du Battle Royale, et l'idée c'est de nous raconter en fait l'histoire d'un gamin qui aurait a priori survécu à un massacre et qui va décider donc quand il a grandi d'organiser à son tour des massacres gigantesques sur son île, histoire de voir si les joueurs ont en eux une fibre meurtrière. Alors c'est une narration un petit peu étrange, enfin moi ça m'a un peu surpris. Les gens de RPS, donc nos collègues de Rock Paper Shotgun, sont pas du tout fans manifestement. Vous linkera le papier dont ils en parlent, où ils en parlent. Ils sont pas fans du tout du concept. C'est vrai que ça change un petit peu l'aspect du jeu, comme tu le disais tout à l'heure quand on préparait l'émission, on s'en fout un peu finalement de la narration autour du titre, on n'en a pas besoin, donc c'était pas vraiment nécessaire, personne n'avait rien demandé. Et là donc ils ont sorti un trailer qu'on vous linkera et qui pose un peu les bases de cette nouvelle narration autour de PUBG. Moi personnellement je suis pas méga fan, je trouve le jeu on n'avait pas besoin. Et
tu te retrouves en plus avec une espèce de survivant Big Brother super malaisant. Et ça n'apporte rien au jeu, c'est-à-dire qu'en termes de gameplay on s'en bat les steaks. Et la comparaison qui est faite chez Eurogamer, qui a la même réflexion autour de ça, est très intéressante, parce que les mecs disent, mais regardez ce que font les petits gars de chez Fortnite. Il y a des évolutions sans arrêt qui font une histoire, mais qui est pas vraiment d'ailleurs décrite, elle est pas écrite nulle part, il y a pas de scène autour de ça, c'est juste on rajoute des éléments rigolos. D'ailleurs généralement c'est des tie-in avec des films et c'est des opérations marketing dégueulasses.
Mais au moins
c'est rigolo. En plus ça apporte un truc au niveau du gameplay, puisque là il y a un truc, il y a un robot géant qui est apparu. Alors, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, ça va certainement être un truc avec nos amis les robots géants qui se tapent dessus, puisqu'il y a le prochain volet de tu vas m'aider sur le nom du film.
Transformers.
Non, pas l'autre avec les robots qui mettent des coups de bateau.
Pacific Rim.
Merci beaucoup. J'adore ce film, ça ne me revenait pas. C'est la vieillesse, putain les mecs quoi. C'est un naufrage. Donc Pacific Rim, oui exactement. Bon, tout le monde pense que ça va être un truc autour de Pacific Rim. Et au moins c'est toujours un peu, tu vois, même le truc Marvel, t'avais Thanos qui était jouable avec un nouveau mode de jeu, etc. Et là, on se retrouve avec un truc qui présente le nouveau design des Rangel vite fait, en plus, tu vois, bon, très bien, mais qui, en termes de gameplay, pour l'instant, c'est très fumeux, ce qu'il propose. Alors, il y a une division complète hein, qui a été créée, qui est censée rajouter de l'histoire dans ce truc-là, mais j'ai envie de dire, enfin, pour moi, le Battle Royale, c'est un mode de jeu comme le tennis, tu vois.
C'est ça.
T'as pas besoin d'avoir une histoire dans le tennis, sauf quand t'as un Djoko Federer, mais c'est pour les journalistes après, quoi.
C'est pour ça que je me posais la question de la pertinence du jeu aujourd'hui, vu que moi j'y joue plus. Je savais pas si c'était parce que justement ils étaient un peu en perte de vitesse et qu'ils avaient besoin justement de redonner un petit coup de fraîcheur au titre en rajoutant de la narration.
Mais en fait là ça passe par des systèmes de maps, ça passe par. Enfin normalement t'as pas besoin de ça, et à mon avis c'est pas l'angle le plus intéressant, et en tout cas c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Là moi je pense qu'ils vont se faire étrier partout, parce que ça, tout le monde s'en fout, et j'ai même presque envie de dire que la version free to play mobile gère plus intelligemment son évolution sur la durée que ce qu'ils sont en train de faire sur la version desktop. Donc, bon, écoute, on va leur laisser le bénéfice du tout et voir ce que ça donne à terme. Mais moi, je suis vraiment pas convaincu par l'angle utilisé. Et je sais pas du tout comment ça va être géré. En plus, je pense que tu es au courant, mais le créateur de PUBG, donc le mec PlayerUnknown, s'est barré du projet. Il est toujours dans la société, mais maintenant il bosse sur une nouvelle licence, sur un nouveau mode de jeu, qui d'ailleurs lui-même est le premier à le dire. Hein, il se met la pression un petit peu, mais ils savent très bien que ça n'en aura jamais l'impact du Battle Royale. Mais voilà, il veut voir autre chose. Il a bien raison, je pense. Mais là, sur l'évolution de PUBG, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je pense qu'ils ont besoin de peaufiner leur netcode, leur serveur, la rapidité du jeu, leur interface est toujours ultra lourdingue. Il y a des trucs qui sont toujours pas corrigés depuis 2017. Je pense qu'il y avait autre chose à foutre que de partir sur une narration dont effectivement, personne n'avait rien demandé. On parlait des mèmes tout à l'heure. Absolument personne. Les types de PUBG, voilà, vous demandent des trucs. Bon, mais voilà, c'est complètement ridicule. Donc on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, nous sommes extrêmement dubitatifs.
Voilà, et puis il n'y a pas que ça, hein, donc ce sera l'update 4.1 avec le lancement de la saison 4, donc comme je le disais tout à l'heure, 24 juillet, avec des nouveautés concernant donc le patch, puisqu'il y aura, comme tu le disais, un revamp de la map Air Angel. On ne va pas rentrer dans les détails, on vous linkera les papiers qui vont
c'est
bien
super
pour
joli.
Vous ayez tout ça, voilà. Nouvel équilibrage au niveau des armes, possibilité de marcher pendant qu'on utilise du heal, et il y aura aussi un changement au niveau de la vitesse de la zone bleue, enfin il y a plein de petites nouveautés comme ça dans le dernier patch, donc on vous linkera le papier de RPS qui en parle en mal et le papier de Rogamer qui en parle un peu en moins mal, pour que vous puissiez vous faire une idée autour de tout ça. Et puis je voulais parler aussi très rapidement d'un petit jeu sur lequel je suis tombé un peu par hasard. Comme j'ai pas beaucoup le temps de jouer en ce moment, je privilégie un peu les petits jeux qui permettent de faire rapidement un petit level histoire de se défouler un peu, et je suis tombé complètement sous le charme de Vectronome. Alors Vectronome, c'est quoi? C'est un puzzle gamer rythmique que j'ai découvert un peu par hasard au détour d'une vidéo YouTube. Tu sais, c'est un peu le
comme
syndrome
quoi,
David Vincent. Tu cherches un raccourci que tu ne trouves jamais et puis finalement tu tombes sur des trucs. Il n'est pas tout nouveau, hein. Il est sorti le 29 mai dernier. C'est un jeu, donc comme je le disais, un puzzle gamer avec une notion de rythme derrière. Donc on pilote un cube qui peut se déplacer dans quatre directions en rythme, mais dans un décor avec des obstacles qui changent aussi en rythme avec la musique, et parfois de manière assez radicale. Donc il faut anticiper les patterns. Donc c'est à la fois un puzzle gamer et un jeu de mémoire, parce qu'il faut mémoriser un peu les patterns du décor pour éviter de sauter dans le vide, ce qui est toujours dommageable. Alors c'est pas aussi complexe que ça en a l'air, hein. Je vous rassure, si moi j'y arrive, c'est que c'est possible. Et justement parce qu'en fait il y a un côté, alors j'aime pas le mot parce qu'il est un peu galvaudé, mais il y a un côté vraiment organique dans la manière dont les niveaux évoluent. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a le rythme dans la peau, si j'ose dire, voilà, exactement,
c'est obligé, hein.
On peut facilement anticiper sur ce que vont devenir les décors et où il faut sauter, etc. Alors vous mettrez les vidéos, vous verrez que c'est assez impressionnant quand même, parce que parfois on se dit mais comment est-ce qu'on peut deviner? On devine pas, en fait. On fait le niveau une première fois, c'est du die and retry, on meurt et puis on commence à mémoriser les patterns et à pouvoir évoluer. C'est très inspiré de Crypt of the Necrodancer, évidemment. Puis toi, tu parlais d'un autre titre dont ça s'inspirait aussi très fortement.
En fait, non, mais Crypt of the Necrodancer, qui est connu des fans du jeu, on va donner naissance à un Zelda qui s'appelle Cadence of Hyrule sur Switch, qui a ultra cartonné. Donc, il y a plein de gens qui ont découvert ce style de jeu avec Cadence of Hyrule. Alors que c'est pas du tout le premier, mais c'est la même boîte qui a fait ça avec la licence Zelda et l'accord de Nintendo, évidemment. Qui est excellent. J'ai failli racheter une Switch à cause de ce jeu, tu vois, et je me suis retenu très fort. Donc, j'ai bien fait d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure.
Donc voilà, Vectronome, 9,99€ sur Steam. Donc ça vaut le coup. Et puis c'est publié par Arte France, qui s'est lancé dans le jeu vidéo et qui a balancé quelques titres là. Donc ce Vectronome
fait
partie de leur catalogue. Ouais, ça fait un moment qu'ils font des
jeux.
Parce
que tu m'as envoyé des trucs, je suis en contact avec leur RP. Et j'en ai parlé vite fait sur quelques vieux podcasts. Mais je vous avoue qu'on n'en a pas parlé sur Geekzone parce qu'il y avait un truc de tag qui était rigolo aussi. Enfin, ils ont fait deux, trois expériences. Mais pour l'instant, c'était un petit peu on va dire en demi-teinte. Donc j'attendais. Voilà, tu vois, Vectronome, ça va être très bien. Bravo Arte.
Allez, on passe du côté des apps avec le retour de FaceApp.
Ouais, qui est en fait une vieille app qui est en train de défrayer la chronique actuellement, mais c'est une app qui est sortie il y a un moment déjà sur iOS et Android, qui est en fait une app qui fait partie de toutes ces apps à la con pour avoir des filtres rigolos sur la tronche. D'habitude, vous faites ça avec Snapchat, vous faites ça avec Instagram, et il y en a plein. La plus connue, d'ailleurs, en fait, la plus grosse, elle n'est pas du tout utilisée, enfin, elle est très peu utilisée en Europe, c'est Snow, qui est en fait la plus grosse, c'est l'app où il y a le plus de filtres de la planète, hein. Qui est l'app asiatique par excellence, je crois que c'est coréen, sinon si je dis pas de bêtises. Et en fait, FaceApp a moins de filtres que tous ces gens-là, mais des filtres un peu plus rigolos. Et en fait, elle est faite par une équipe russe qui est basée d'un côté aux États-Unis, de l'autre côté en Russie.
Ce qui tout de suite lève des red flags. Hein.
Voilà, donc là, tout de suite, les gens font « Ah oui,
c'est les Russes !»
Non, c'est les Russes dans un bâtiment où il y a a priori une autre société qui, comment dirais-je, est impliquée dans des choses un peu pas très jolies en termes de politique. Bon, évidemment, rien n'est prouvé et tout le monde est innocent « Unless proved otherwise », comme disent les Américains. Mais tout ça pour dire que l'app, à la base, pour faire très simple, FaceApp, le filtre qui a cartonné que vous avez vu passer sur tous les réseaux sociaux depuis bientôt une semaine, c'est leur filtre qui permet de vieillir sa tronche. Ça fait faire des cauchemars, je vais pas vous le cacher. Moi, en plus, je suis parti d'une photo où déjà j'étais pas bien en forme. L'application ne m'a pas raté, j'ai pas posté le truc. Hein.
Il va falloir que tu la poses dans le forum maintenant.
Je pense que je vais être obligé de faire un truc. Non, tu sais quoi, on devrait le faire tous les deux. Ah, mais toi, parce qu'avec ton téléphone, je sais même pas. Ah, si, mais ça part. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fait sur vos téléphones, c'est fait sur le cloud et ça revient. Donc, du coup, là, t'as pas besoin d'un téléphone super puissant pour le faire. Bref, c'est aussi le nœud du problème puisque les photos partent sur le serveur. Tu vois, suivez mon regard. Oui, mais on efface tout en 48 heures. Ça fait partie du truc où les démocrates américains ont dit oui, mais quand même, comment qu'on est sûr? On n'est pas sûr, mais en même temps, ils ont
croyez-nous.
Ils ont pas un milliard d'infos, mais ils ont quand même ton nom et ta photo. Donc, ça peut être un problème. Tout ça pour dire que l'application pour faire le truc vieux, je disais qu'en fait on pourrait se faire la version réelle, bien creepy, des marionnettes du Muppet Show. Je pense que ça pourrait nous faire une bonne bannière.
C'est ça. Ouais.
Il faut qu'on fasse il y a un truc à faire. Je vous promets rien, mais on va tenter. Si vraiment ça nous fait peur, on n'ira pas. Donc voilà, je vous mets les deux liens je vous mets un lien vers le site officiel de FaceApp et un lien autour d'un des papiers qui explique pourquoi les démocrates sont en train de s'énerver aux États-Unis. Mais il n'y a pas que, hein, évidemment. Il y a pas mal de gens qui sont en train de s'inquiéter du truc. À tort ou à raison, vous pouvez aller voir du côté de chez Numérama aussi, où Julien Cadeau, lui, est en mode genre, bon, les gars, vous avez le droit de vous amuser. Oui, il y a des trucs qui partent, mais il ne faut pas non plus crier au loup tout de suite pour rien. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que, très honnêtement, c'est beaucoup de bruit pour rien aussi. Maintenant, évidemment que c'est une app russe et évidemment que ça ne fait pas plaisir, mais vous êtes tous inscrits sur Facebook, les mecs, donc arrêtez de nous faire chier. Voilà, enfin, je veux dire, à partir du moment où vous postez toutes vos photos de vacances sur Instagram, qui appartient à Facebook, venez pas pleurer pour une app où vous avez posté une photo random de votre tronche, quoi. Donc c'est pas
c'est toujours le problème de l'indignation sélective.
Voilà, en tout cas, les Américains ont demandé, pour finir, il y a quand même un sénateur qui a demandé au FBI et à la FTC d'enquêter, donc il y aura certainement un truc qui va se passer. Il va rien se passer comme d'habitude à la fin. Et voilà, je vous rappelle que Trump est toujours président, on vit dans un monde extraordinaire.
Et on reste dans les apps avec cette fois-ci de la copie du côté de nos amis de Microsoft. Hein.
Ah oui, parce qu'on s'est énervé la semaine dernière, enfin on s'est moqué avec, comment dirais-je, on riait jaune.
C'est ça.
Devant le no shame de nos petits copains de chez Xiaomi qui ont copié donc les Memojis d'Apple en appelant ça les Mimojis. C'est-à-dire qu'ils ont changé une lettre dans le nom, ils ont copié le design et ils avaient même oublié, comme si vous n'avez pas écouté le podcast la semaine dernière, ils avaient même oublié d'enlever les trucs sur lesquels ils avaient copié justement de leur site web. Ou alors le mec, quand il a mis en place le site web, s'est gouré en fait. Hein. Au lieu de mettre leur copie, il a mis l'original. C'est aussi drôle que ça. Ils avaient embed les vidéos d'Apple dans leur site officiel, ce qui est quand même
malin.
Bravo les gars. Et en fait, on découvre que depuis début juillet, il y avait une autre raison de s'énerver, mais je ne l'avais pas vue. Et en fait, j'ai déjeuné mercredi soir, pas du tout déjeuné, mais dîner d'ailleurs, mercredi soir avec un ami qui travaille chez Apple, qui m'a dit, mais c'est rigolo, t'as pas vu l'autre truc de chez Microsoft? Je fais, non, de quoi parle-t-on? Et en fait, on parle de Puppets. Et Puppets, c'est la dernière création de SwiftKey. SwiftKey, c'est le clavier intégré que tu peux installer sur Android et sur iOS maintenant, depuis un petit moment, pour, tu sais, faire le taper tes lettres en levant jamais ton doigt du clavier, le truc que j'arrive pas du tout à faire.
J'ai jamais réussi non plus.
Ouais. Voilà, et qui est enfin intégré d'ailleurs sur la prochaine version d'iOS. Et du coup, pourquoi SwiftKey, c'est un problème, c'est parce que c'est racheté par Microsoft. Donc maintenant, c'est Microsoft. Donc ça appartient à la maison, à la grande maison de Seattle. Et donc, ils ont sorti Puppets, et Puppets, c'est exactement comme les Animojis, en moins bien. Donc là, ils ont copié pas la façon de faire un humain, mais ils ont copié faisons des trucs expressifs avec des petits animaux rigolos. Donc, encore une fois, c'est totalement le truc qui a été inventé par nos petits copains de chez Apple. Mais comme ils n'ont pas accès à des caméras aussi puissantes du côté Android, et, puisque tu n'as pas la gestion de la profondeur, parce que ça ne marche sur iOS qu'avec les produits équipés de Face ID, pour avoir justement cette notion de profondeur et pouvoir scanner ton visage en temps réel de manière correcte. Là, ça passe par un appareil photo de base, donc c'est moins efficace. Ça marche quand même pas mal. Bon, vous allez voir, hein, le design, c'est un peu moins bien réussi, mais clairement, c'est une repompe pure et dure. Et le truc que je ne savais pas, en fait, c'est que dans l'histoire, donc tout le monde recopie Apple en mode genre, bah oui, mais de toute façon, les avatars 3D, c'est pas vous, hein, donc on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Bah oui, bah, on va essayer de pas copier. Là, au moins, ils ont pas copié le nom. Hein. Ils ont, tu vois, Puppet. Au moins, ils ont fait un effort. Bravo, Microsoft. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'Apple s'est posé des questions pendant 1000 ans et a vraiment marché sur des œufs quand eux ont fait le truc. Donc, tu vois, ils sont un peu dégoûtés, puisque évidemment, ceux qui suivent un petit peu ce genre de truc savent que le premier à faire ça à grande échelle, les petits avatars 3D comme ça, alors oui, ça a été inventé par une boîte anglaise, je crois, mais dont tout le monde se fout, mais le premier qui l'a fait vraiment correctement, c'était Nintendo. Avec les Mi. Et quand tu t'appelles Apple et que tu sors un truc qui s'appelle les Memoji, qui sont inspirés un peu des Mi Nintendo, tu vois, tu te dis, ouais, il y en a
faisons
bien.
Gaffe.
Voilà, il y en a bien qui va me faire chier. Et du coup, ils avaient même contacté Nintendo, vérifié que tout se passait bien, etc., et qu'il n'y avait pas d'embrouille, tu vois. Bon, et bah, évidemment, je confirme que Microsoft ou surtout que Xiaomi.
Ils ont tapé les steaks, comme on dit.
Les mecs, ils ont sorti leur truc, ils ont fait genre go. Donc voilà, donc c'était rigolo. Vous utilisez ce que vous voulez, hein. Au final, on s'en fout. C'est juste que je voulais noter le manque de race de certains développeurs. Et j'imagine les réunions des mecs, tu vois. Dis donc, Bob, t'aurais pas une idée? Ouais, on pourrait copier ce truc-là. Eh ben, merci Bob pour cette idée originale. Je pense qu'on va le faire. C'est une très bonne idée. À la semaine prochaine. Donc voilà, je trouve ça vraiment, moi, ça m'hallucine à chaque fois. Mais bon, bref. Nous sommes dans un bien beau monde maintenant avec la Startup Nation, la Startup World.
C'est ça. Ouais.
Et pourtant, Microsoft, hein, c'est pas vraiment de la startup. Mais bon, en plus, techniquement, il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, vous pouvez aller voir. Je link le papier qui parle de ça avec un peu autant de. Comment on dit? Des abusages.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Que moi. Je sais pas si c'est français. Je sais pas si ça existe.
C'est pas grave, on va dire que si.
maintenant, ça existe. À partir de maintenant, les mecs, ça existe. Donc voilà. Mais je pense qu'il est temps qu'on passe à des choses beaucoup plus rigolotes, mon ami Fesky.
Allez, on va passer du côté de la culture avec des news de la franchise Kingsman. Yeah, je sais que toi, tu es fan.
Oui.
Voilà, donc il y a un nouveau trailer
donc,
qui est sorti. Il y a un nouveau trailer qui est sorti sur donc The Kingsman, qui est donc une préquelle à la série des Kingsmen, toujours réalisée par Matthew Vaughn, qui signait donc les deux opus précédents, Kingsman The Secret Service et Kingsman The Golden Circle, que moi j'avais un petit peu moins aimé.
Oui, non, il est moins bien, mais j'adore quand même, je suis désolé.
Je reste fan du premier. Donc on retrouve cette fois-ci Ralph Fiennes, je sais jamais comment on prononce, qui reprend le rôle de
moi
Colin Firth, et Harris Dickinson qui reprend le rôle de Taron Egerton, et donc c'est un préquel qui nous raconte les origines de l'agence de super espion, super secret, au moment où elle est aux prises avec un groupe de super criminels, super mal intentionnés.
Et indépendante,
oui, c'est vrai.
Ça dépend de aucun pays.
Donc on vous en parle parce que le premier trailer est sorti, on vous le link pour que vous puissiez aller découvrir tout ça, et que ça a l'air plutôt prometteur. Au casting, on retrouve également Gemma Arterton, Jimon Unsu et Daniel Brühl. Le film est prévu pour février 2020, donc on a encore le temps, mais on voulait vous en parler parce qu'on sait qu'on a des fans sur Geekzone, et toi n'étant pas un des moindres.
Ah oui, non, mais j'avais même fait un petit post à l'époque sur Cavezone d'ailleurs, pas Geekzone, mais sur Cavezone, j'avais fait un petit post là-dessus quand j'avais regardé le film, j'ai fait mais putain, mais j'avais pas pris une claque comme ça depuis tellement longtemps sur le premier, et c'est juste jouissif en fait.
Ouais, c'est ça, c'est de l'action pure. Quoi.
C'est de l'action pure, jouissif, c'est un comics version film. Vraiment comme j'aime Marvel pour la même raison en fait, tu vois, c'est on s'éclate, oui, tu poses un petit peu ton cerveau de côté, tu on est gentil, merci, on n'est pas là pour réfléchir, c'est pas un truc d'espion, on n'est pas dans du Tom Clancy, hein. Mais c'est tellement jouissif et la galerie de personnages était tellement réussie que je me suis régalé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur le prochain opus.
The Kingsman, donc février 2020. On reste dans la culture et avec un petit peu de science malgré tout, puisque je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, donc j'ai posté une news sur Geekzone, puisque la NASA a mis en ligne un site dédié à la mission Apollo 11, donc la première mission sur la Lune. Voilà, le site est assez fantastique. C'est pour fêter donc les 50 ans de la légendaire mission où Armstrong et Aldrin ont mis le pied sur la surface de la Lune. Et c'est un site qui permet donc de revivre l'événement en temps réel. Alors ça intègre des séquences vidéo d'époque, des extraits d'émissions télé, des photos, des dialogues. On peut donc s'immerger complètement dans l'une des missions spatiales les plus ambitieuses de l'histoire de l'humanité. N'ayons pas peur des mots. On peut donc choisir de rejoindre la mission en progression narration, donc la suivre vraiment littéralement en temps réel comme elle s'est déroulée il y a 50 ans tout juste, ou alors on peut choisir d'y aller à une minute du décollage, donc juste avant le lancement, et après on peut se balader sur la timeline comme on veut en fonction des différents événements, donc le moment où ils ont quitté l'atmosphère terrestre, le moment où ils sont arrivés dans l'orbite lunaire, le moment où ils se sont posés, etc. Et tout ça est vraiment super documenté, il y a plein d'éléments interactifs, on peut en apprendre plus sur le rôle en fait de tous les gens, tu sais, qu'on voit souvent dans les films, cette espèce de grande salle au sol où ils sont tous en train d'appuyer sur des boutons dans tous
mission
les sens,
control.
Voilà, le mission control, on sait pas trop qui fait quoi, et ben là on peut justement cliquer sur ces différents postes, on peut limiter l'écoute des commentaires audio à ces différentes personnes, et on a en dessous un petit descriptif de leur rôle, à quoi ils servent, et on se rend compte que c'est quand même pas c'est pas du travail, c'est pas léger comme taf, quoi, c'est assez sérieux. Donc voilà, il y a les logs complets de la mission, tous les échanges avec les astronautes, c'est passionnant, même si vous n'êtes pas branché conquête spatiale ou exploration spatiale, parce qu'il paraît qu'on peut plus dire conquête spatiale, c'est un côté belligérant qu'il faut éviter. Donc l'exploration spatiale, allez faire un tour sur le site, c'est vraiment super bien foutu d'un point de vue techno-web, déjà ça devrait vous intéresser. On linkera donc le papier que j'ai écrit cette semaine sur cet hommage à la mission Apollo 11, 50 ans plus tard.
Et pour finir sur la culture, tu parles de cette version web qui défonce, je voulais juste plugger à l'arrache comme ça en live. Je vous rajouterai un lien sur un papier du New York Times, si je ne dis pas de bêtises, qui est fabuleux, qui parle de tout, enfin qui explique comment a été maîtrisé l'incendie de Notre-Dame.
D'accord.
Et qui est en termes de, bon, déjà le récit est intéressant évidemment, mais qui est vraiment ultra intéressant à regarder en termes de techno web. Ils ont fait un truc, je suis hyper impressionné qu'ils aient fait ça, et vous allez voir, c'est vraiment hyper joli. Je pense que je l'aurai posté sur les réseaux sociaux d'ici là, parce que j'ai pris le temps de faire une petite vidéo que j'ai pas eu le temps de monter et de poster encore pour le moment, pour montrer le truc, parce que ça pour moi c'est vraiment l'avenir de la presse pour le coup, et c'est des trucs qui coûtent tellement cher et qui prennent tellement de temps à faire que évidemment vu comment se passe l'économie du web, c'est assez rare de voir ce niveau de réalisation. Voilà, c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la choucroute.
Et ben écoute, puisque tu plugues, je plug aussi, on reste dans la culture, et je voulais juste vite annoncer très vite la confirmation donc du retour de Taika Waititi à la réalisation de Thor 4.
Yes,
double bonne nouvelle, puisqu'on savait pas qu'il y aurait un Thor 4, et maintenant on le sait, et ce sera de nouveau Taika Waititi à la réalisation. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ce week-end que vont avoir lieu les grosses annonces Marvel Studios, donc on a prévu un épisode spécial des clairvoyants la semaine prochaine pour vous dépiauter tout ça, donc voilà, si vous êtes fan des films Marvel Studios, il y aura du gros, normalement du lourd ce week-end, des annonces de la phase 4, hein, on va appeler ça comme ça, donc voilà, je pense qu'on
va déguster.
Je suis
trop content de cette annonce, trop content, c'est un de mes Marvel préférés.
Allez, on passe du côté de la tech avec un truc que je te laisse prononcer.
Ah là là, c'est hyper sympa. Donc, je vais vous parler du nouveau pad de chez 8BitDo, ça c'est la marque. Et le nom du pad, c'est le SN30 Pro Plus. Merci beaucoup, les mecs du marketing.
Vive le marketing.
Non, mais les gars, faites un effort. Je sais pas, inventez des noms, mais copiez.
Des noms humains, quoi.
Mais. Oh là là, donc c'est des mecs qui ont, mais voilà, ils arrêtent pas de chier du pad depuis des années, et en fait ils ont fait toute leur réputation, en tout cas au départ, sur des pads inspirés de l'univers Nintendo, avec des designs qui correspondent aux Nintendo américaines, Nintendo japonaises, etc. Et puis après ils se sont dit, ça serait pas mal de faire des pads qui sont bons en fait, surtout parce qu'au début ils étaient surtout jolis, mais ils étaient pas terribles à utiliser. Alors après, il y a tout et n'importe quoi sur le net, je ne vais pas faire un test, ceci est une annonce parce que ce n'est pas sorti encore, je vais certainement dépenser l'argent du Patreon pour en acheter un et tester la chose, parce qu'il a l'air quand même hyper intéressant. Pourquoi ? Donc ce pad, il fonctionne déjà partout, c'est sa première grosse innovation, c'est pas une innovation mais c'est un peu leur marque de fabrique à la base, c'est de pouvoir fonctionner sur plus de plateformes possibles. En plus, avec l'ouverture maintenant au pad Bluetooth côté Apple et iOS, on est vraiment sur des trucs qui fonctionnent partout. Donc si je fais l'inventaire, ça fonctionne sur toutes les consoles, y compris la Switch. Attention, en revanche, la Switch ne peut pas sortir de veille avec ses pads. Il n'y a vraiment que les pads officiels qui permettent de sortir cette console de veille, c'est un petit peu chiant. Et sinon, ça fonctionne évidemment sur PC, Apple TV, iPad, enfin tout ce qui est iOS, Android, Mac, Raspberry Pi, la totale. Donc ça marche vraiment partout. Là où ils ont fait fort, c'est qu'il y a un soft de paramétrage ultra complet sur lequel tu vas pouvoir jouer sur à peu près tous les paramètres de la manette. La force de la vibration, la façon dont sont gérés les sticks analogiques, avec beaucoup de précision, des trucs un peu mous, machin, etc. et sont mis en avant, et c'est là où le bas blesse, où les gens ne sont pas d'accord sur les internets multimédia 2.0, les gens ne sont pas d'accord sur la qualité du D-pad, c'est-à-dire la qualité de la croix digitale. Pardon, j'ai le droit de dire digital, il y a les doigts.
Oui, je pense qu'il y a prescription maintenant, tout. On va se faire chambrer dans le forum, mais c'est pas grave. Hein.
Non, mais faut déjà accepter maintenant. Voilà, j'allais les insulter façon taulier, donc je vais pas le faire parce qu'on n'est pas dans les tauliers. Mais
petite mais parenthèse, curier, mais je bosse pour une agence de com en ce moment et je te confirme que quand j'ai essayé de leur faire comprendre que digital était un anglicisme, on m'a regardé avec des grands yeux en me disant oh, écoute, laisse tomber quoi. Donc ouais. Voilà, genre, faut se faire une raison.
Tout le monde s'en fout, c'est dans Dico, faut arrêter avec cette guerre, on l'a perdu, les mecs.
C'est ça.
Je voulais vous dire, celle-là, elle est perdue, faut arrêter maintenant. Donc le pad il sort le 7 août, il est déjà en précommande sur Amazon pour 50€. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est à 50$ aux États-Unis et à 50€ chez nous. Enfin, 49,90, machin, vous connaissez la blague. Hein. J'allais oublier de vous dire qu'on peut faire deux trucs hyper intéressants avec ce pad, et ça c'est hyper intéressant pour les mecs comme moi qui pètent un câble sur Switch, où par exemple le bouton A et le bouton B sont inversés par rapport à toutes les autres putains de consoles de la Terre, c'est que tu peux complètement changer le mapping. Donc tu peux changer le mapping des boutons, tu peux remettre exactement les boutons où tu veux et la console normalement va se démerder avec ça, et tu peux aussi faire des macros. Donc voilà, pour 50 balles, la manette a une bonne tête, ça a l'air pas mal, mais si vous voulez regarder le site, et bien évidemment je vous ai linké tout ça, mais si vous voulez attendre un vrai test, bah attendez la rentrée, puisque je pense pas vous en reparler d'ici là, mais si je craque et si c'est pas bon, vous en entendrez parler, en tout cas sur le forum, ça c'est sûr et certain.
Et on termine avec des news du côté de la Switch.
Tu peux le redire pour moi,
Switch, si je l'ai fait exprès pour toi.
J'adore, merci la Belgique, on vous aime les gars. Donc du coup la Switch, qu'est-ce qui se passe? On a parlé de la Switch Lite la semaine dernière.
Ouais.
Tu vois, tu te rappelles cette version pas chère, et quand on parlait de la Switch Lite, on partait les rumeurs de Switch Pro peut-être pour 2020, etc. Ces rumeurs sont toujours d'actualité. Les gens ne lâchent pas l'affaire comme ça, et on espère toujours qu'il y aura une Switch qui va sortir avec un nouveau design, et surtout avec un nouveau design qui va enlever tous ces bezels dégueulasses autour de la console, puisque je vous rappelle qu'elle a quand même une gueule de produit un peu mastoc. Hein,
alors que elle n'est pas très jolie. Ouais.
Bah, elle n'est pas très jolie, les manettes ça bouge un peu sur les côtés, et puis l'écran il est... alors j'adore la console, hein, mais voilà, factuellement le truc n'est pas parfait, il y a largement de quoi améliorer ce design. Mais en attendant, il y a bien une Switch révisée qui sort, et elle sort très bientôt, puisqu'en fait on l'attend en France dès septembre, et ça sera pas du tout une Switch Pro, une Switch bidule, il change rien en fait, c'est pas du tout un nouveau modèle, c'est un modèle donc qui est révisé, qui vous allez juste avoir un numéro de série qui va changer, mais alors j'imagine qu'il y aura un moyen de le différencier en septembre, puisqu'il y a quand même un nouveau processeur dedans. En fait ils ont changé le CPU et la RAM, ce sont des évolutions de ce que fait Nvidia, ce sont des nouveaux des nouvelles versions mais qui ne changent rien. Ah oui, CAF, c'est pas très clair ton histoire, des nouvelles versions qui ne changent rien. En fait on ne change pas la taille de la RAM, on ne change pas le processeur en termes de capacité réelle. Ce qui va changer, c'est la façon dont ils sont fabriqués, ce qui fait que ça consomme moins d'énergie et ça mouline aussi vite, mais en consommant moins de jus et avec une nouvelle batterie. Résultat des courses, cette Switch révisée, il n'y a rien qui change à part l'autonomie, et quand je vous dis que ça change, bah ça change pas qu'un peu, donc c'est là où si vous venez d'acheter une Switch, vous allez être un petit peu dégoûté, sauf que vous l'aurez cet été, dites-vous ça, tu vois, tu l'as acheté pour les vacances, bon bah voilà, il fallait bien l'acheter un jour. Mais on passe de 2h30 à 5h d'autonomie, jusque là cette fois, ça c'est la Switch actuelle, hein, 2h30 à 5h, et là on passe à 4h30 à 9h d'autonomie.
Ah oui, c'est pas mal.
Donc là, qu'on est quand même sur un truc un peu plus sympa, et pour avoir un exemple concret, Nintendo annonce que Zelda pourra tourner pendant 5h30 contre 3h actuellement, en mode portable, donc on gagne quand même 2h30 de Zelda.
C'est pas négligeable.
On est dans la vraie augmentation comme on aime. Donc je vous ai linké le papier de Gamekult qui résume tout ça. Mais je suis extrêmement content de voir que les gars se bougent enfin. Maintenant, je vous dis, hein, cette rumeur de Switch Pro, j'espère qu'elle donnera naissance à quelque chose en 2020. Vu les déclarations de Monsieur Bowser, qui maintenant a pris la suite de Régis Fils-Aimé chez Nintendo, on peut espérer. En tout cas, il y a des éléments de langage, comme on dit en politique, qui nous laisse penser qu'il se passera peut-être quelque chose en 2020 d'un peu plus conséquent. Ils en ont les moyens, et je pense que Nvidia a des choses dans les cartons aussi, comme c'est leur partenaire là-dessus, et que Nvidia, bah, c'est leur seul partenaire console. C'est d'ailleurs le seul partenaire vraiment sérieux au niveau du Tegra. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir quelque chose de très petit, mais très puissant. On verra bien l'année prochaine.
Et c'est la fin de ce 98e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Ça sera la dernière de la saison, hein, puisqu'on avait dit qu'on faisait une pause après pendant le mois d'août, histoire de bosser un peu sur le site. Hein. N'est-ce pas, Caf?
Oui, exactement. C'est exactement ce qu'on va faire. On prend pas du tout de vacances. Je ne vois pas ce que tu veux dire. D'ailleurs, je ne t'entends pas très bien. Je passe sous un tunnel. Sérieusement, on va bosser sur déjà les formats de podcast. Il y a des trucs qui me trottent dans la tête. Et puis, surtout, le site qui mérite ce petit coup de peinture. Et on en profite. Parce qu'en plus, vous savez qu'on travaille en freelance à côté. Mmh. Et moi, personnellement, au mois d'août, j'ai l'impression que mes clients ont décidé de tous partir en vacances
oui,
en même
ça
temps.
Ça va être compliqué, oui. On espère qu'on va pouvoir vivre un peu sur ses réserves.
Déjà, ça, c'est sûr, de toute façon, déjà. Hein. N'hésitez pas, le Patreon est linké sur la homepage du site. mais c'est surtout que, de toute façon, du temps libre, je vais en avoir, puisque ça sent le chômage technique, les affaires. En plus, j'avais deux gros projets qui ont été décalés. Du coup, mois de septembre, ça va être de la merde. Mais ça, tout le monde a l'habitude. Mais du coup, je voudrais profiter de ce temps-là pour faire des petits... On fera des streams, on sera là, hein, de toute façon, on bouge pas, donc il y aura pas de podcast, mais on fera du stream et on va surtout bosser, et je vous dis, avancer avec vous sur le forum, sur la nouvelle gueule du site, pour voir un truc un petit peu plus dépoussiéré pour 2020, donc comme je le disais au début du podcast, n'hésitez pas à venir poser vos suggestions sur le forum.
Allez, bon week-end, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.